Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et bonjour. Bonjour et bonne mi-temps. Mi-temps de quoi? Il y a un match? Qui match avec qui? Bonjour. Hein. Merci Emiliane. Merci Damos. Ce soir au MPSG. Ah. France-Écosse rugby. Ah. D'accord. Eh ben bon match, hein. D'accord. Azincourt V2. D'accord. Mais non, c'était pas l'Écosse, c'était l'Angleterre, Azincourt. Enfin ouais, si, il avait unifié l'Écosse avant. Enfin, son père avait unifié. Bon, c'est compliqué. Comment ça va? Est-ce que vous passez un bon dimanche au niveau de tout ce qui est dimanche? Jour du Seigneur, tout ça. Très bonne idée ce petit stream, t'as vu? Malade. À toi aussi? Moi ça va. Moi ça va mieux. Ça y est, je commence à avoir une gorge qui ressemble à quelque chose. J'ai moins mal. Donc j'ai l'impression que je suis sur la fin. Ça commence à bien faire là. Ça fait 2 semaines. Chiant. Azincourt, il n'y a pas d'Écossais, ils sont encore nos alliés. Ah bon? Je croyais qu'ils avaient été défaits. C'est après Wallace. C'est après la mort de Wallace à Saint-Cours. Non? Je sais pas. Sur la fin, reste avec nous. Non mais. Non, je suis sur la fin de la maladance. Je me suis défoncé le nez au sérum psychologique toute la semaine. Ça commence à porter ses fruits. Bien le bonjour, je fonce acheter un hoodie pour soutenir Baxit. Oh la bonne idée. Oh la bonne idée. Viens de voir le dernier Baxit en replay, c'était un des meilleurs de tous à mon avis. Wow, tout de suite. Le sérum fille qui te fait aimer Mélenchon. Bonjour depuis Taipei. Oh Taipei, trop bien. J'adore Taipei. Tu jutes toujours, toujours. Non, il était bien le dernier Baxit. Je suis content. Je suis content. Bon, après, c'était facile. Hugo Décrypte, Manon Aubry, Jérôme Guedj. Que des invités faciles. Donc, c'est difficile de rater une émission comme ça. Merci Eden. Mais tant mieux, tant mieux. On va pas se plaindre, hein. On fera pas des émissions faciles toutes les semaines, mais c'était chouette. Il y avait beaucoup de monde dans le public et tout, c'était cool. Pourquoi choisir cet ordre d'upload pour les VOD de Baxit et pas l'ordre chronologique comme l'année dernière? Ah, mais les VOD de Baxit sont disponibles en intégralité dès la fin de l'émission, hein. Il n'y a pas d'ordre, hein. Vous pouvez regarder l'émission dans son intégralité dès la fin. Que tu vas encore inviter des streamers? Oui, ponctuellement, ouais. Why not? Première fois que je regardais Baxit. Pour l'instant, je suis circonspect. Faudra que j'en regarde un deuxième. Eh ben, regarde jeudi prochain. Le public de cette semaine va être incroyable. Ah ouais, cette semaine, il y aura les modérateurs dans le public. Je suis trop content. Il y aura les forces de l'ordre qui pourront pas modérer pendant 2 heures. C'est quoi le programme de jeudi prochain? Backseat à partir de 19h jusqu'à 22h30. Tu peux le noter dans ton agenda tous les jeudis. Voilà. Ça va être le feu sur le chat. Ah bah non, parce que quand les modérateurs sont pas là, c'est moi qui modère. Autant vous dire que j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Ça veut dire qu'on pourra insulter les invités et les chroniqueurs sur leur physique si elles disent des trucs de droite. Ah bah tu pourras le faire une fois. Après tu seras banni définitivement de la chaîne. Je te le dis que par avance, tu ne nous manqueras pas. Tu peux pas modérer et animer l'émission. Tu me connais mal. Il y a des bans qui partent pendant l'émission, c'est moi qui les fais. Hein. Tu penses pouvoir modérer et animer en même temps? Mais je le fais déjà, hein, vous croyez quoi? Ah non, mais sans déconner, hein. Je veux revoir Raphaël Lorca et Claire Ridel. J'adore leur point de vue. Je le dirai à Claire Ridel. À moins que tu confondes Claire Lejeune et Chloé Ridel. Mais je le dirai à Claire Ridel. Ouais, je leur dirai. Mais ils vont revenir, hein, bien sûr. Je vais bien redevenir modo, histoire que les ex-collègues passent un bon moment. Comme tu sembles déjà au taquet pendant l'animation, je pensais pas. Oh, l'animation, c'est facile, hein. Je distribue la parole, le reste de l'émission. Je suis sur Amazon, je fais des courses, hein. Est-ce qu'on aura le droit à Chronomusique cette année encore? Bah, je sais pas, il a une actu. Non, mais moi je suis pas contre à inviter des streamers, au contraire. Enfin, on a invité Hugo par exemple. Mais par contre, cette année, je vous ai dit que je voulais inviter des gens seulement si ça a un lien avec l'actu. Voilà. Donc on fera plus des invitations hors actu comme l'année dernière. On fera des invitations en fonction de l'actu, donc ça dépendra. Hugo, il est facile à inviter. Ouah, c'est toi qui dis ça, hein? Je crois qu'Hugo, il est facile à inviter. Hugo, il a un agenda de ministre pire que le mien. J'étais trop content qu'il vienne, c'était super sympa de sa part, et c'était très intéressant. Et sa vidéo sur l'Ukraine, elle est chouette. Sympa le vinyle derrière, t'as vu, il marche bien. Hein? Et encore mieux dans les oreilles. Merci à l'illustre inconnu qui a acheté un sweat. J'ai cru entendre que tu attendais Diablo 4, tu es fan de la série. Ah, moi j'ai adoré Diablo 3. J'ai beaucoup beaucoup aimé Diablo 3 quand il est sorti. Et donc j'attends Diablo 4, ouais, carrément. Je suis pas un fan de la série, mais j'adore, ouais, carrément. Est-ce qu'on aura des membres du mouvement associatif ou des ONG pour parler de la loi immigration? Peut-être, je sais pas. J'ai peur du modèle économique de Diablo 4. Pourquoi on a eu des infos là-dessus? Ils vont pas nous ressortir l'hôtel des ventres. Dans le sens où si tu l'invites, il va proposer des bonnes choses. Si tu invites certains streamers, pas sûr qu'ils apportent à une émission politique. Ça dépend ce que tu leur demandes, ça dépend dans quelles conditions tu les invites. J'ai aussi beaucoup aimé le 3, mais l'hôtel des ventes de début était horrible. Ça a été amélioré de l'extension. Oui, non, non, mais Diablo 3 n'a fait que s'améliorer. Oh, l'hôtel des ventes, c'était horrible. Mais heureusement qu'ils l'ont viré. Hein. Puis ils referont pas la même erreur. Ils referont pas la même erreur. Et puis voilà. Invite toute la gauche et unis-la. Hey, s'il y a des gens que vous voulez voir particulièrement sur Backseat, ce que je vous conseille, c'est de taper leur nom sur Google ou sur YouTube et vous tombez sur des contenus dans lesquels ils parlent dans des micros. Ça, vous pourrez les entendre, vous serez content. On en est où de l'examen du PLFSSR par le Sénat? Bah, c'est en cours. Ça doit être en commission à l'heure qu'il est, ou alors c'est les vacances parlementaires pour eux aussi, je sais pas. Tu vas faire du KSP2? Non, j'ai pas prévu d'y jouer. Un stand Public Sénat au salon de l'agriculture, je m'attendais presque à te croiser. Ah bah tous les ans, hein, Public Sénat, ils sont là. Salon de l'agriculture et salon des maires. Voilà. Non, ils sont en vacances aussi les sénateurs. Bah ils reprennent demain, donc ouais, le texte va arriver demain en commission. Au Sénat, ça va faire 4 jours en commission, 3 jours en commission, et ensuite ça va filer en séance. En vrai, j'aimerais bien avoir plus de gens de Renaissance Modem, mais pas forcément les têtes les plus connues. Moi aussi. Moi aussi. Hervé Marseille, ce serait bien. Est-ce que tu vas stream le Sénat? Je sais pas encore. Peut-être la séance publique, peut-être la discussion générale. Fabius, tu l'as déjà reçu, j'ai un doute. Non, Fabius, je ne l'ai pas reçu, mais Fabius, il est président du Conseil constitutionnel, donc il n'est pas du genre à donner des interviews facilement. C'est qui Hervé Marseille? C'est le président du groupe Modem à l'Assemblée. Ça commence jeudi, la séance publique. Ça commence dès jeudi en séance publique? Oui, donc du coup, ils font lundi, mardi, mercredi en commission. Ouais. Ok. T'as changé l'éclairage. Non, j'ai pas changé l'éclairage, j'ai juste oublié de fermer un bout de fenêtre. Pourquoi c'est mal éclairé? Président de l'UDI, Hervé Marseille. Ah bah oui. Mais attends. Du coup, il siège chez qui, Hervé Marseille? Ah mais non, il est sénateur, excusez-moi. Non, non, mais attends, attends, je confonds avec qui? C'est qui le président du groupe Modem à la haine? Non, non, Hervé Marseille, c'est UDI, bien sûr. Puis surtout, c'est un sénateur. Ah, c'est Mignola, le président du groupe. Ah, mais oui, c'est Mignola. Suis-je bête? Ouais, Mignola. Non, mais ouais, non, non, non. Il y a des gens intéressants au Modem, hein. Il y a Jean-Paul Mattei, Jean-Louis Bourlange. Sur les affaires étrogènes, Erwan Malanan, Jean-Noël Barrot, mais il est ministre. Frédéric Petit, Bruno Millienne, Richard Ramos, toujours. Non, mais attends. Mais non, mais ça, c'est l'ancien groupe, qu'est-ce que je raconte? Attends, mais c'est n'importe quoi. Ils ont pas mis. À jour, si c'est bon, 26 février 2023. Voilà, c'est Jean-Paul Mattei, le président du groupe. Je lui disais bien, Mignola, il est plus président de groupe. Excusez-moi. L'Assemblée nationale, il y a encore la composition de l'ancien groupe. Mais oui, non, c'est ça. Je me disais, mais Mignola, mais il est même plus député. J'étais en mode, mais j'ai raté une étape. Il a été réélu. Il y a eu une partielle. Merde. Non, non, c'est Jean-Paul Mattei, le président du groupe. Erwan Balanant. Olivier Falorni, Bruno Fuchs, Cyril Isaac Sibille. Frédéric Petit, Bruno Millienne, Philippe Vigier, Richard Ramos. Enfin bref, non, non, il y a des gens intéressants au Modem, hein, c'est pas ce qui manque. Je trouvais ça bizarre que quelqu'un trouve intéressant Hervé Marseille. Oh. Mais ouais, non, non, c'était. Enfin, Backseat cette semaine, c'était très cool. Moi, j'étais content. J'étais content. Et vendredi, il y avait l'hebdo Étienne, du coup, chez Samuel. C'était cool. J'étais content d'y retourner. J'étais pas bien. Hein. Oh. J'avais la gorge en feu. J'avais mal au crâne. Mais on a bien rigolé. Avec Ponce. Oui, avec Ponce. Ponce que les jeux vidéo ont rendu violent. Hein. Ah bah ouais, on l'a tous vu. Hein. Des moments collector avec Constance. Ah, avec Constance, c'est incroyable. Constance Maisonneuve, donc, qui est journaliste chez France Inter pour l'émission Business de Fragile. Affaires sensibles, c'est pareil. Et on a beaucoup rigolé. C'était très chouette. Il me fait peur sur le live, Ponce. Pas trop impacté par la concurrence de Game of Thrones. Bon, il n'y a pas de concurrence, c'est des copains. Pourquoi Ponce est devenu violent à cause des jeux vidéo? Bah parce que les jeux vidéo, ça rend violent les jeunes. Et Ponce, c'est le meilleur exemple. Penses-tu de l'éviction de Pradier chez LR? Oula, c'est une vieille info, ça remonte à la semaine dernière. Ça, on a déjà fait plein de lives là-dessus. On a fait une émission de backseat entière. Tellement de violence, le pompon. Non, c'était très très chouette. Je suis d'accord avec Samuel, c'était un bon plateau. Il y a une bonne énergie avec Constance, avec Ponce, avec moi. On a bien rigolé. C'était intéressant. On était un peu tout le temps d'accord. Mais en même temps, l'Hebdo Étienne, c'est pas une émission de débat non plus. Donc, c'est pas, on cherche pas le dissensus par principe. Tu préfères les Pim's orange ou framboise? Alors toi déjà t'es ban. Hop, ça dégage. Voilà. Non, je déconne. T'es pas ban. Enfin bon, t'es pas passé loin. Pim's meilleur biscuit. Mais elle est crevée là! Qu'est-ce que c'est qu'encore que cette campagne? Vous saoulez là, les gens qui mangent des Pim's. C'est interdit les Pim's. C'est pas bon. Ça a été démontré scientifiquement. La propagande d'Ava fait effet. Non mais voilà, non mais Ava qui est en train encore une fois de retourner Twitch avec des propos intolérables, à la limite de l'acceptable. Moi, je suis désolé, j'appelle à des régulations sur les réseaux sociaux de la part des autorités publiques. On ne peut pas laisser des gens comme Ava continuer des campagnes de déstabilisation d'opinion publique à grande échelle sur des sujets comme les Pims. C'est pas possible. On ne peut pas faire nation, on ne peut pas faire république avec de tels comportements sécessionnistes, quoi. Voilà. Faudra clipper et lui envoyer ça. Sur le service public en plus. Vous appelez à sa démission. Alors j'appelle à rien du tout, moi. Je t'ai découvert par les best-of il n'y a pas longtemps. Je passe du coup te remercier pour ton travail et pour Backseat. Très chouette comme émission. Merci, ça fait plaisir. Merci, Mayhem. Merci beaucoup. Très content que tu aies découvert les best-of. On ne négocie pas avec les amateurs de Pims. Non, tiens, d'ailleurs, sujet intéressant. En juillet prochain, il y a la TwitchCon à Paris. Alors, je rappelle que la TwitchCon, c'est la convention de Twitch qui a lieu chaque année. Il y en a deux qui ont lieu chaque année. Il y en a une qui a lieu aux États-Unis, à Las Vegas, je crois, tous les ans. Ou à Los Angeles, je sais plus. Mais ça, c'est le côté américain, c'est la TwitchCon US, machin. Et en Europe, il y a eu 2 ans sans TwitchCon à cause du Covid. La TwitchCon est revenue l'année dernière, c'était à Amsterdam. Et l'année dernière, ils ont annoncé que la TwitchCon suivante, donc celle de 2023, serait en juillet à Paris. Donc c'est la France, monsieur. Nous accueillons le monde. Je crois qu'on a mis suffisamment de pixels pour qu'ils comprennent que c'est ici que ça se passait. Du coup, on accueille la TwitchCon. Donc, je rappelle, hein, la TwitchCon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une convention. Donc, ça ressemble un peu à un salon. Vous pouvez venir, vous n'avez pas besoin d'être streamer. Ce n'est pas réservé aux streamers du tout. Et il y a plein de stands, il y a plein d'animations, il y a plein d'ateliers, de conférences, de spectacles, de musique, avec plein de gens autour de l'univers Twitch. Donc moi j'étais déjà allé à celle d'Amsterdam l'année dernière, j'avais beaucoup aimé, je trouvais ça vraiment chouette. C'est gratuit? Non, 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 c'est pas gratuit. Comme toutes les conventions, il faut payer son entrée. C'est une PGW version Twitch. Oui, c'est ça, si tu veux. Oui, c'est une forme de PGW version Twitch. PGW, c'est très très axé jeux vidéo. Là où la TwitchCon va être plus axée sur Twitch et l'ensemble de son univers. Donc il y a aussi du créatif. Donc il y a évidemment des stands de jeux vidéo avec des éditeurs, des gens qui vendent des PC, des périphériques et tout, classiques. Mais il y a aussi. C'est mieux que la PGW, enfin, moi je trouve, parce que pour le coup, il y a aussi des conférences. Et en l'occurrence, Twitch a lancé un appel à proposition pour proposer des conférences, proposer des sujets de conférences. Alors moi, l'année dernière, à la TwitchCon à Amsterdam, alors il y avait des conférences à destination des streamers et des streameuses. Comment consolider sa communauté, comment gagner de l'argent, comment organiser sa chaîne. Il y avait des trucs comme ça plutôt cool. Il y avait une conférence à laquelle je suis allé qui était plutôt pas mal sur les LGBT. Comment la communauté LGBT, comment les personnes LGBT sur Twitch s'organisent, de quelle aide est-ce qu'elles ont besoin, etc. En anglais, du coup. À Amsterdam, c'était en anglais, ouais. Amsterdam, c'était en anglais. La TwitchCon à Paris, bah, donc du coup, Twitch a lancé un appel à proposition de conférences en disant qu'on pouvait faire des conférences dans les langues qu'on voulait. Vu qu'il y aura des gens de toute l'Europe qui seront là, on pourra faire, si on le veut, des conférences en anglais, en espagnol, en allemand et tout. Et donc moi, je me posais la question de dire, tiens, est-ce que ce serait pas le moment de proposer une conférence intéressante autour de, bah, je sais pas, du coup. Donc j'en ai parlé à Samuel, mais alors Samuel m'a dit qu'il sera en vacances, c'est en plein mois de juillet, et lui, c'est ses vacances annuelles en famille et tout, donc il m'a dit c'est chaud. Mais il ferait peut-être un aller-retour, mais c'est pas sûr. Enfin, bon, voilà, c'est pas grave. Mais ouais, du coup, est-ce qu'on fait une conférence sur la politique sur Twitch? On peut. Est-ce qu'on fait une conférence sur l'actu? Est-ce qu'on fait une conférence sur les politiques sur Twitch? Est-ce qu'on fait une conférence sur Twitch, sur le sujet qu'avait soulevé JDG sur les communautés Twitch? Est-ce qu'on fait Twitch au regard des réseaux sociaux et de la manipulation d'opinion, effectivement, à Michemelette dans les élections? Enfin, je sais pas, moi, la question est ouverte. Faut trouver matière à faire une conférence intéressante, une table ronde un peu cool, et il faut réfléchir en termes de ce que ça apporte au public et du panel qu'on peut réunir de créateurs ou de gens extérieurs à la plateforme aussi qui pourraient venir, quoi. JDG, il avait dit quoi sur les communautés Twitch? JDG, il avait eu une analyse intéressante qui avait pas mal fait réagir, où il disait qu'il y avait de plus en plus de divergences de communautés sur Twitch, et il y a des communautés qui se parlent plus. Il y a des partages en petits groupes de streamers qui partagent entre eux des viewers, mais du coup, ça crée des grappes de viewers qui ne se connaissent pas avec d'autres grappes sur Twitch. Et on en avait parlé sur Twitch, sur la cartographie notamment des publics, où il y a des gens. Moi, par exemple, je suis regardé par une communauté qui est plutôt du genre à regarder les contenus de la team du lundi, de Ponce, Ultia, Zerator, JDG, Antoine Daniel, Angle Droit, etc. Et puis, il y a tout une autre communauté qui va tourner autour des JL Tommy, Amine, Billy. Et en fait, c'est des communautés qui se mélangent très très peu. Donc, c'est ce que disait JDG. Alors, lui, il le déplorait un peu, c'était intéressant. Voilà, et donc pas mal de gens en avaient parlé. Il avait surtout dit ça pour encourager à faire des collabs. Ouais, non, carrément, non, c'était intéressant. C'est un débat très franco-français. Oui, c'est très franco-français. Est-ce que tu vas au salon de l'agriculture cette semaine? Ça va dépendre de mon état de santé, je t'avoue. Donc, du coup, voilà, moi, ça m'intéresserait de proposer une conf à la TwitchCon, mais j'essaie de trouver un angle intéressant. C'est facile de faire des conférences de merde, c'est plus difficile de faire des conférences qui ont une problématique intéressante, qui méritent d'exister parce que les choses qui s'y disent sont intéressantes, sont inédites, à l'occasion de la TwitchCon, le fait qu'on est en France, au regard de l'actualité. Merci, Sliel. Donc ouais, non, je sais pas. Alors la politique sur Twitch, bah ouais, mais pour dire quoi? En fait, un sujet de conférence, c'est facile. L'idée, c'est d'avoir une problématique intéressante de conférence. Parce que moi, les conférences où on met 5 personnes avec un micro devant la bouche qui sont tous d'accord les uns avec les autres, bon, bah, c'est comme les podcasts chiants, ça m'intéresse pas. Après, je veux pas non plus faire une conférence pour le plaisir de faire un débat, mais pour avoir des analyses sur une problématique intéressante. Viens de croiser Edouard Philippe au salon de l'agriculture. Ok. Le faux copinage entre streamer et chat. T'as raison, bro. Twitch est-il de gauche? Ouais, alors après, on peut faire une conférence troll. Enfin, on peut faire un intitulé troll pour attirer des gens et avoir des sujets intéressants. Quel est l'impact d'une plateforme comme Twitch sur la politique? La réponse, ça va être aucun. Ah, tu vois, oui, bon, voilà. Est-ce qu'on souhaite que ça ait un impact? Est-ce que ça a du sens? Enfin, je sais pas, j'essaie d'élargir la question. Quel rôle pour Twitch dans l'union de la gauche? Non, je sais pas. Ou alors on peut faire une conf sur le thème qui a été soulevé par Vincent dans sa chronique, dans le PowerPoint de Vincent dans l'émission de cette semaine sur Baxit, sur la surproduction ou les superproductions. Et le burn-out des streamers. L'utilisation de Twitch par les institutions politiques, partis, extension de la société des spectacles, le rapprochement nécessaire avec la société réelle. Non, mais là, pareil, tu vois. Utilisation de Twitch par les institutions. Aucune institution française n'utilise Twitch. Aucune. À part peut-être un conseil municipal quelque part, mais donc c'est pas intéressant. Utilisation de Twitch par les politiques, bah aucun politique n'utilise Twitch à l'exception de deux députés de temps en temps. Utilisation de Twitch par les partis, aucun parti n'utilise Twitch. À part en période de campagne électorale où il y a deux partis qui utilisent Twitch. Donc tu vois, c'est bon, une fois que t'as fait le tour et tu dis pas ouf. Jean-Luc Mélenchon, il n'avait pas fait du Twitch. Bah non, Jean-Luc Mélenchon, il avait fait trois passages sur Twitch pendant la campagne. J'appelle pas ça être sur Twitch, moi. Ah, Yannick Jadot, il avait une chaîne Twitch pendant sa campagne. J'appelle pas ça être sur Twitch. Faire trois émissions, ça veut pas dire être sur Twitch, tu vois. Donc, tu vois, je suis pas persuadé que ce soit le sujet le plus intéressant. Et pour le coup, je trouve ça très nombriliste en plus. Dommage de se cantonner au domaine politique, au sujet plus large, sur les intervenants diversifiés, se rendre un truc moins stérile. Bah, c'est ce que je me dis, c'est qu'en fait, je me dis que si on fait une conf qui tourne autour de la politique, ça va intéresser qui d'autre que moi? La TwitchCon, c'est peut-être justement le moment d'arrêter d'être nombriliste et de se dire, bon, ok, ma chaîne, elle est chouette, mais enfin bon, il y a un monde autour de... Le monde continue de tourner autour et tout tourne pas autour de mon nombril, donc je vais pas proposer à Twitch une conférence dans laquelle moi je suis la superstar. Enfin, tu vois, ou alors il faudrait que ça ait du sens. Sinon, c'est un TEDx. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Sinon, ça s'appelle un TEDx. Et c'est de la merde. Donc, non, mais je sais pas, non, mais je me dis un truc sur les super productions, je trouve ça intéressant. On pourrait faire un panel intéressant avec, avec Amine, avec Kamel, avec Domingo, avec moi, avec Zera, s'il veut, enfin, en tout cas avec ceux qui veulent pour discuter de cette problématique justement qui est celle dont parlait Squeezie dans son live sur est-ce que l'avenir d'Internet c'est la super production? Est-ce que c'est ce vers quoi on tend? Est-ce que c'est ce dont on a envie? Est-ce que c'est ce dont le public a envie? Est-ce que c'est pas un sujet plus YouTube que Twitch? Bah, c'est très lié. C'est très lié, notamment quand on parle de super production. Si on se cantonne à Twitch, tous les noms que je viens de te donner, c'est que du Twitch. C'est pas du YouTube. Est-ce qu'elles fonctionnent car elles doivent rester l'exception? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il faut que ça reste exceptionnel? Moi, la super production, je m'en fous un peu. Si c'est ce qui m'intéresserait, si c'était ce qui m'intéressait, je regarderais la télé. Alors ça, pareil, hein, la télé, c'est pas que de la super production. Hein. C'est pas parce qu'il y a deux, trois émissions en prime time chaque soir qui sont surproduites à la télé qu'on peut dire que la télé, c'est surproduit. Hein. Ça aussi, c'est une misconception dont, à mon avis, il faut faire un peu gaffe. Quand on parle de la télé, on fantasme très vite l'idée que la télé, c'est une débauche de moyens en permanence. En fait, c'est pas vrai, hein. Le sport est extrêmement bien produit à la télé. Les matchs de foot, Tour de France et Jeux Olympiques et tout, ça c'est vrai, mais c'est du sport. C'est spécifique. La culture, bah, les super productions culture. C'est rare, en fait, quand ils pensent. C'est quelques concerts, quelques cérémonies, César, Molière, et autres. Mais tu vois, les émissions de débat, par exemple, tu prends une émission comme des chaînes d'infos en continu, par exemple, c'est moins produit que ce que moi je fais sur Baxit, hein. Culture, il y a quand même pas mal de documentaires. Ah, mais documentaire, c'est. Ça dépend quel docu, parce que du docu pas cher à la pelle, c'est facile aussi. Ça existe aussi, hein. La super production enlève l'interactivité au cœur de Twitch. Ça dépend. Ça dépend ce que t'en fais, ça dépend comment. Donc je sais pas moi. Je sais qu'en tout cas, moi ce que je sais c'est qu'on est quelques-uns sur Twitch à vouloir tenter des trucs et que je me dis que ça peut donner une conférence intéressante justement sur ce thème-là. De pourquoi est-ce qu'on cherche à imaginer des choses nouvelles, différentes, qui n'existaient pas avant? Quelles sont les limites de cette ambition? Bon, ça, voilà, ça peut donner une conf. La superproduction, c'est un peu comme des finalités, comme dans chaque média, ça reste un choix du streamer d'aller dans cette direction. Ouais, et justement, c'est ça qu'on peut interroger. C'est ça qu'on peut interroger, qu'on peut questionner. C'est quoi les limites du truc? En fait, j'ai pas envie de faire une. Enfin, moi, je trouve. Je défends de plus en plus l'idée qu'il faut arrêter de comparer la télé et Twitch, ça n'a pas de sens, c'est absurde, il n'y a pas besoin. Donc j'ai pas envie de faire une conf qui s'appelle Est-ce que Twitch ressemble de plus en plus à la télé? Parce que je trouve que vraiment c'est un débat pas intéressant. C'est exactement comme est-ce que l'e-sport c'est du sport? C'est pas un débat intéressant, on s'en fout. Ça n'a pas de finalité, ça ne va nulle part, ça ne dit rien, ça n'amène à rien, c'est pas important. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu putaclic comme conférence. C'est comme comparer le journal papier au journal télé. Oui, c'est ouais, bon, c'est pas intéressant. Est-ce que le cinéma, c'est pas du théâtre en plus cher? Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que le... C'est comme comparer la télé et le cinéma, quoi. Le petit et le grand écran. Non. C'est pas comparable en fait. Y a pas besoin de chercher à comparer, on s'en fout, c'est pas important. Donc voilà, donc bref, peu importe. On n'a pas. Enfin, y a pas. C'est toujours pareil. Il n'y a pas besoin de mettre le mot télé dans la big picture pour rendre le truc intéressant. On peut très bien faire un débat ou une conférence ou un sujet intéressant autour du sujet avec que des streamers pour parler de problématiques propres à Twitch et Internet. C'est pour ça que je me dis que ouais, une conf sur ce sujet-là, c'est intéressant, quoi. Twitch doit-il grandir avec ses audiences? Est-ce que c'est les super productions qui font grandir l'audience de Twitch? Moi, je crois pas, hein. Je suis pas sûr que le GP Explorer ait fait venir beaucoup de monde sur Twitch. Je pense que le Covid a fait venir beaucoup plus de gens sur Twitch que toutes les super productions réunies. La télé tuait le livre et la lecture, donc on raccourcit. Pourquoi Twitch va tuer la lecture? Moi, je pense qu'on peut directement faire pourquoi Twitch va tuer la civilisation européenne. Ouais. Twitch comme symbole de la décadence de nos sociétés. C'est le GP qui m'a fait venir perso. Ah d'accord, ok. Avec Kevin Bossuet, Éric Zemmour. Ah ouais, non, on va faire un truc bien. Avec... comment il s'appelle l'autre philosophe? Merde. Non, non, pas BHL, non, non, pas lui. Onfray, Michel Onfray, voilà. Michel Onfray. Michel Onfray, faut-il couper Twitch pour sauver le judéo-christianisme? Merci Max Boyman. Onfray, il est sur le judéo-christianisme maintenant. Ah ouais. Ah ouais, t'as pas suivi. Ah non, Onfray, il est parti loin. Hein. En 20 ans, il est parti très très loin. Maintenant, il est sur la défense du judéo-christianisme. Face au double péril de la modernité et de l'islam. Ah non, il a changé le bonhomme. Hein. C'est un gros shift. Ah ouais, non, il est parti loin. Hein. Je sais pas, c'est... Un peu comme si Philippe Poutou, dans 10 ans, il nous faisait des conférences sur pourquoi la France fait fuir des investisseurs avec ses impôts et ses taxes. La dette, deux points, cette épée de Damoclès qui nous pend au nez. Et ben alors, Philippe, tu nous fais? Parti au moins aussi loin que Houellebecq. Ouais. La vieillesse est un naufrage. Non, mais je sais pas. Bon, je réfléchis à haute voix, mais je suis en train de me dire que la TwitchCon à Paris, c'est quand même un bel événement. Et ça aurait du sens de proposer une conf chouette. Après, je ne ferme pas la porte à faire une conf qui tourne autour de la question de la politique. Mais j'ai peur que. J'ai peur qu'à part du nombrilisme, ça amène pas à grand-chose, quoi. Après, peut-être qu'avec Samuel, on pourrait faire un truc sur l'éducation aux médias, tu vois. Est-ce que... Oh non, ouais, si on pourrait faire un truc sur le journalisme sur Twitch. Moi, je suis pas journaliste, enfin, je m'en fous. Mais Twitch comme un outil qui permet d'aborder différemment l'actualité. Ouais, ça pourrait être intéressant. Un panel de vulgarisateurs sur Twitch. Non, mais en fait, il faut chercher à problématiser parce que, encore une fois, une conférence où c'est juste des gens qui présentent ce qu'ils font, c'est pas intéressant. Il faut qu'il y ait une discussion, tu vois. Il faut que ça amène à une réflexion. Je veux dire, c'est la TwitchCon à Paris. C'est la France qui accueille le monde. Il faut qu'on leur montre que nous, on se fait chauffer le ravioli avec des débats philosophiques, sinon. Méthode d'éducation populaire sur Twitch. Comment ouvrir les esprits et apporter de la contradiction à nos communautés? Je réfléchis. Ouais. Ouais. Est-ce que Twitch ouvre l'esprit ou au contraire, est-ce que Twitch renforce les bulles de filtre en fabriquant des communautés d'homogénéité de point de vue? Mais encore une fois, je veux dire, à part les gens qui s'intéressent à la politique, qui en a quoi que ce soit à branler de cette question? Merci Max Abel. Merci Mister DJ Angle. Pour le coup, ton émission est très hétérogène en termes d'opinion. Ah bah même trop. Selon certaines personnes, visiblement. Donc non mais c'est tu vois, on peut interroger ça. Twitch, le règne de l'entre-soi. Les réseaux sont-ils pas très sociaux? Mon Dieu. Si tu veux que la problématique qui fasse avancer le débat ne commence pas la question fermée, est-ce que... Ah, je suis bien d'accord avec toi. Question fermée, c'est les mauvaises questions en interview. De tout temps, les hommes. J'aime ou j'aime pas. Un truc genre, quelle place de Twitch dans le monde? Trop, trop vague. En fait, c'est ça, le double écueil, c'est de tomber dans un truc trop spécifique de. D'enculage de mouche. Ou trop général de ça veut rien dire, enfin c'est pourquoi la vie, pourquoi la mort? Ta question sur les superproductions peut être intéressante, j'imagine qu'il y a aussi des exemples en Europe. Ah c'est très français hein, les superproductions sur Twitch, c'est un phénomène très très franco-français. Question de nouveau, avec l'affaire Palmade, on dirait qu'il n'y a plus de débat sur les retraites. On en est où à l'Assemblée? Ah ouais, non, mais toi, t'as pas suivi, du coup. Donc, c'est fini à l'Assemblée. Rien à voir avec Palmade, hein. C'est fini. Voilà, c'est fini. Très américain, surtout. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, justement, il y a une spécificité française sur les super productions sur Twitch que tu retrouves très, très peu aux États-Unis. Très, très peu en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, un petit peu. C'est quoi les super productions sur Twitch? Bah, c'est les événements. C'est les événements. Donc, tu vas retrouver le GP Explorer, le match de foot d'Amine, le festival Popcorn. Le The Event et la ZLAN, si tu veux, ouais. Donc le The Event, c'est pas tant une super production qu'un marathon caritatif qui rapporte beaucoup d'argent. Speedon, ouais, Speedon, K-Corp, KCX, etc. Et après, tu as des émissions qu'on peut appeler surproduites par opposition aux émissions. Là, par exemple, ce que je suis en train de faire, c'est pas une émission surproduite. Là, je suis littéralement en pyjama comme un connard chez moi. Il n'y a rien de surproduit là. C'est un stream classique, basique, tranquille. Il n'y a pas un euro d'investissement ou de quoi que ce soit. Il n'y a que de l'amortissement matériel, quoi. Et par opposition, bah, tu as des émissions qu'on peut appeler donc surproduites. Et donc, c'est Popcorn, Backseat, Game of Roll. Je sais pas. Zen, ouais, Zen. Table Quest. Tu dis super production, tu parles d'émissions ultra ponctuelles du coup. Ben non, justement. Enfin, je dis qu'il y a les deux. Il y a des événements, donc ça c'est ponctuel, effectivement. Ça peut être annuel, mais c'est rarement plus qu'annuel. Et puis il y a des émissions récurrentes, très produites. L'hebdo Étienne, on est à mi-chemin. On est à mi-chemin. C'est pas une super production, l'hebdo Étienne. C'est une émission à la maison. Mais c'est pas une super production. La TM Cup à Bercy, ouais, c'était une super production. Et toi, quand tu fais des lives dans les musées? Ouais. Oui, les lives dans les musées, t'as raison. La chaîne Le Stream. Ouais, la chaîne Le Stream. Alors, la chaîne Le Stream, c'est un peu une exception. La chaîne Le Stream, c'est un peu le dernier survivant d'une ère qui a un peu disparu sur Twitch, qui était l'ère des web TV, qui à une époque était prédominant, qui maintenant l'est plus du tout. Il reste le stream, effectivement. Mais c'est fini, cette époque-là. Pourquoi surproduit? Je dis, c'est par opposition, par décalage avec la majorité des streams sur Twitch qui sont peu produits. Est-ce que les talk shows comme Popcorn Backseat sont des trucs très français, on les retrouve ailleurs? Bah, ce que je vous disais, c'est que sur Twitch, en tout cas, c'est qu'il y a une spécificité française. Il y a une spécificité française. Les web TV qui étaient aussi un phénomène franco-français. Ouais, les web TV c'était très français. Et en grande partie dû à Dailymotion. Mais ouais, bien sûr. À la grande époque de Eclipsia, Millennium, O'Gaming. Et plus tard, le stream, Solary. Acropolis qui a essayé. Heureusement qu'on en est sorti. Non, ça marchait bien. Enfin, je veux dire, c'était bien. Pourquoi ça n'existe plus? Parce que c'était une autre époque, c'était une autre manière de faire, parce que les streamers individuellement, ils retrouvent assez peu leur compte sur ce type de contenu. Donc voilà. C'est des modèles économiques très difficiles à maintenir. Et le public s'attache plus à des personnes qu'à des marques. Donc c'est l'incarnation qui joue un rôle très important sur Twitch. Donc voilà, pour un peu toutes ces raisons-là, les web TV, c'est un modèle qui a pas survécu plus que ça. Alors ça continue à exister un peu, à la marge, sur l'e-sport avec OTP, mais c'est un peu particulier. L'e-sport, c'est spécifique. Mais sinon, il reste le stream, Solary. Acropolis, était quand même bien. Ouais, c'était bien. C'est quoi une web TV? Bah, une web TV, c'est un modèle de chaîne Twitch collectif, où il n'y a pas qu'un seul streamer, où c'est une succession de personnalités différentes qui animent des émissions différentes dans une grille des programmes sur la semaine. Voilà. C'est un collectif qui stream sur la même chaîne. Voilà. Donc le stream, typiquement, c'est une web TV, ce qu'on appelle les web TV sur Twitch. C'est une chaîne TV version Twitch. Ah, seul point commun avec la télé, c'est la linéarité, oui. Mais bon, j'ai envie de dire, on fait tous du linéaire, donc enfin, on a tous une prog. Donc, techniquement, voilà. H24, le Web TV, ça dépend. Il y avait des modèles H24 de Web TV, puis il y avait des modèles pas H24. Le stream, par exemple, c'est pas H24. Le stream, c'est 16h minuit. Les talk shows marchent plutôt bien par contre. Ouais. Oui, les talk shows ça marche bien, le jeu de rôle ça marche bien. Non, non, il y a des formules particulières sur Twitch qui ont trouvé leur fonctionnement. Les talk shows, effectivement, ça marche assez bien. Mais là aussi, c'est peut-être une impression que j'ai, mais j'ai l'impression que c'est très. Il y a des spécificités dans les pays, dans les cultures web. Aux États-Unis, ils ont une culture de la web TV qui est très différente de la nôtre, pour plein de raisons. Lié notamment à l'histoire de la télé aux États-Unis qui est très spécifique et qui n'a rien à voir avec la France. Le podcast aussi marche très bien aux États-Unis. Je suis complètement passé à côté de la culture web TV. Oui, non, mais c'est pas très grave, hein. Encore une fois, c'était surtout une époque. Voilà. Mille 2016, les web TV. Ouais, c'est à peu près ça. Oui, c'est à peu près ça, oui. L'âge d'or 2013-2014. Ouais. Est-ce que dans tous les cas, les besoins de financement extérieur est un frein au projet un peu ambitieux de streaming? Oui, mais une fois que t'as dit ça, t'as pas dit grand-chose. C'est toujours pareil, oui. C'est le manque d'argent et le frein numéro un à tous les projets. Quel qu'il soit. Ça peut être pareil dans la musique, ça peut être pareil, enfin, tu vois, ça peut être pareil dans le théâtre, dans le spectacle, dans le cinéma. Enfin, oui, t'as besoin de pognon. Oui. Et bon. Sauf que le talk show sur Twitch a l'avantage d'avoir directement une communication avec les viewers. À la télé, c'est plus dans l'entre-soi. Ouais. Ça dépend. Je trouve que par exemple, une des choses qui explique le succès de TPMP, de Cyril Hanouna, c'est en partie ça. Cyril Hanouna a compris l'importance du travail communautaire. Fait de constituer une communauté autour de son émission. Le talk show doit en partie son succès au culte de la personnalité, comme tu le disais. C'est toujours des émissions All-Star où on vient retrouver son streamer avec son environnement. Ça, ouais, après, ça dépend des talk shows, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui explique le succès des talk shows? Est-ce que c'est simplement le fait que tu fous des stars autour du plateau? Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, il y a quand même un apport éditorial différent. Mais ça y participe, ouais. Popcorn, c'est que des stars autour du plateau. L'Hebdo Étienne en partie aussi. Backseat, c'est un peu différent. Parce qu'à part Usul, les chroniqueurs sont pas des stars. Relativise un peu le mot star quand même. Non, bah, enfin, oui, évidemment, star. Je ne compare pas avec les stars d'Hollywood. Hein. Je parle de personnalité d'Internet ayant une forte communauté, une forte audience communautaire. Ponce et Domingo sont pas des stars. Si, c'est clairement. Sur Twitch. Non, non, mais je parle que Twitch, hein. Je parle pas de. Je parle pas du reste. Ne pas être connu sur un plateau, ça demande aux viewers un effort pour te découvrir. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En vrai, il y a combien de pourcents de la population française qui est sur Twitch? Pas beaucoup, j'imagine. Ah non, non, pas beaucoup. Ah non. Non, non, mais laissez tomber. Enfin, encore une fois, on se fout du reste. Là, je parle bien de l'environnement, de l'écosystème Twitch. Bon, là, on était en train de discuter des talk shows sur Twitch. Et donc, je vous parlais du caractère all-star des talk shows sur Twitch. Du fait que tu peux réunir des stars autour d'un plateau et que ça peut participer à booster ton stream. C'est comme les collabs, c'est le même principe que les collabs, etc. Mais c'est bien au regard du Landerneau, tu vois. Mais c'est exactement comme la télé-réalité, c'est un phénomène en soi, c'est une bulle en soi. Moi, je suis pas du tout la télé-réalité, je connais pas les stars de la télé-réalité. Donc quand j'ai entendu parler de Magali Berda, etc., j'ai découvert des noms et des visages de gens dont je n'avais jamais entendu parler, parce que juste je ne fréquente pas cet environnement-là. C'est vu par combien de personnes Backseat? En consolidé, en nombre de vues uniques par émission. En comptant les replays, ça va de 150 000 à 300 000 personnes. Des milliards. C'est beaucoup. Ouais, carrément. Est-ce que petit à petit la télé va mourir selon toi? Non. La télé va pas mourir, la radio n'est pas morte, la presse écrite n'est pas morte. Non, la télé va pas mourir. La télé va avoir des problèmes de structure de financement au bout d'un moment. Mais pas mourir. Quelle est la répartition de Backseat direct rediff podcast? Ça dépend des émissions. On doit avoir en live, on doit avoir entre un tiers et la moitié des vues. Ça dépend des émissions. Mais entre un tiers et la moitié des vues sont live et le reste, c'est du replay podcast. La presse écrite, c'est hyper, super subventionné quand même. Ça dépend laquelle, hein. Ouais, la presse quotidienne, la PQR parfois. Mais c'est pas. Non, enfin, je veux dire. penses qu'avec l'effondrement de la civilisation, c'est la TV ou Twitch qui va tomber en premier? C'est le judéo-christianisme. Est-ce que le nom de Backseat, ça vient du fait que, genre, quand tu regardes l'émission, tu te fais Backseat en politique? Alors, je sais pas, c'est le chat qui a trouvé le nom de l'émission. Démerdez-vous, hein. C'est vous. Vous avez vos raisons, hein. C'est vous qui avez trouvé le nom de l'émission. Maintenant, vous assumez, hein. Le chat a ses raisons que la raison ignore. Perso, j'étais bourré à ce moment-là. Au top, l'émission de vendredi. Chez Samuel? Ouais, c'était cool. L'émission de vendredi, c'était cool. C'était chouette. J'étais dans la maladie, mais c'était chouette. Enfin, j'étais dans la maladie. J'avais un vieux mal de gorge horrible. Je suis allé chez le médecin, et le médecin il m'a dit non, non, mais vous avez plus rien. Hein. Là, c'est juste de l'irritation post-angine. Y a rien à faire, faut attendre. Bonjour Jean, ça jute. Au top l'émission de jeudi. Ouais, c'était chouette. C'était très cool. Eau chaude, thym, miel, citron. Ouais, non, mais là c'est bon, là j'en suis sorti là. J'ai plus mal à la gorge, j'ai plus trop mal à la gorge depuis hier. Hier midi à peu près, ça commence à aller mieux. Voilà. La majorité des maladies demandent juste du temps pour guérir, pas un médoc ou un traitement miracle. Je sais, je sais, je sais. Enfin, là, j'ai quand même pris de l'homéopathie. Comme par hasard. C'est bien la preuve que l'homéopathie, ça marche. Quand je chope un rhume, je prends de l'homéopathie, au bout de 7 jours, j'ai plus de rhume. C'est bien la preuve. Et là, c'est pareil avec mon angine. J'avais une angine bactérienne. J'ai eu un traitement antibiotique. En parallèle, j'ai pris de l'homéopathie. Et bah, au bout de 5 jours, c'était parti. C'est la preuve que l'homéopathie a marché. Mais ça, Big Pharma veut pas que vous le sachiez. Il préfère vous vendre des antibiotiques. Faites ce que vous voulez, mais les preuves sont là. Ah bah, renseignez-vous. Faites vos propres recherches. Ça en dit long sur réfléchir. Les gens qui disent faites vos propres recherches, les imagine chez eux avec un petit labo clandestin, tu sais, avec des pipettes et tout, en train de faire. Moi, je fais mes propres recherches. J'ai réussi à isoler le génome génétique du Covid. Vraiment, avec leurs petites lunettes, leur tableur Excel et tout. Ah, j'ai fait mes recherches. Hydroxychloroquine, ça marche. J'ai fait mes recherches. Avec une centrifugeuse à la maison, un séquenceur génomique et tout. Oh, ouais. Accélérateur de particules dans le jardin, avec Bobonne, chaque week-end, on fait des collisions de protons et tout. Hein. Ah bah attends. On va pas se laisser avoir par les médias mainstream. Hein. Ça part en fission nucléaire et tout. Hein. Ah bah attends. Boiron, ça fait pas partie de l'industrie pharma. Non, Boiron, c'est une coopérative citoyenne non alignée à but non lucratif ou assez peu lucratif. Bon, ils peuvent faire un peu de lucra, mais on leur pardonne parce qu'ils sont quand même anti-système. Familial. Ouais, c'est familial. Puis c'est local en plus, Boiron. À ne pas confondre avec l'Institut Pasteur. Eux, je suis sûr qu'ils se font des milliards. Vous savez qu'au début du Covid, je me souviens, putain, au moment du Covid, l'été 2020, je crois, j'avais rencontré une nana comme ça, à un apéro, complètement full complotiste, sur les masques. Enfin, c'était la grande époque des masques. Il fallait avoir une opinion sur les masques et sur l'hydroxychloroquine, un mot que toute la France a découvert en mai 2020. Et du jour au lendemain, il fallait avoir un avis dessus, hein. C'était obligatoire. Si t'avais pas d'avis, t'étais un mouton. Et elle m'a sorti des trucs sur ouais, mais l'Institut Pasteur, ils sont financés par qui? C'est qui ces gens, etc. Je lui dis non, mais enfin, quand même, l'Institut Pasteur. À la limite, tu pourrais me parler des laboratoires de recherche, des labos pharmaceutiques, de l'industrie pharmaceutique, qui travaille sur des molécules, des médicaments. À la limite, tu peux avoir un fond de discours sur oulala, les méchants. Mais là, on parle de l'Institut Pasteur. Genre, elle me dit, ouais, mais enfin, ils ont fondé. Et vraiment, elle m'a dit, ils ont été fondés par qui, ces gens-là? Je la regarde, je lui fais, mais l'Institut Pasteur. C'est vraiment cette. On est vraiment en train de discuter de savoir si l'Institut Pasteur travaille pour je sais pas quelle entité, Bill Gates, mon cul. Et vraiment, tu sais, la meuf, et c'est là que tu te rends compte, tu fais, ah oui, non, mais d'accord, en fait, en fait, tu t'es largué, tu sais pas. On te lâche le mot Institut Pasteur, tu le places nulle part dans ta tête, sur un axe confiance, historicité. Ok, bon, non, mais intéressant. Je sais pas, c'est comme la Croix-Rouge, tu vois. La Croix-Rouge. Ouais, ça fait partie des trucs, t'es censé quand même le placer dans ta tête à un niveau quand même un peu. C'est la Croix-Rouge, quoi. Je veux dire, bro, ça fait un siècle et demi. 19e siècle, la guerre, tout ça. La neutralité. Bon, la Croix-Rouge, quoi. C'est plutôt. Voilà. Fondation Abbé Pierre, pareil. Même si tu connais pas très bien l'Abbé Pierre. Fondation Abbé Pierre, normalement, ces trois mots, ils sont censés allumer une petite lampe en mode. Ouais. Plutôt calé sur les questions de logement et de grande pauvreté. Secours catholique, tu vois, pareil, secours catholique, oui, d'accord, on voit bien le truc, la charité chrétienne, machin, secours catholique, enfin bref, tu vois, là je parle d'ONG, mais voilà, donc pareil, Institut Pasteur. Institut Pasteur, non, je sais pas, il y a des trucs comme ça, spontanément. L'INSEE, pareil, l'INSEE. Bon, bah, ils font de la stat, les mecs, hein, c'est pas fou, hein, l'INSEE, ils font de la statistique. Voilà, ils te pondent du tableur Excel à. Bon, personne remet en cause l'INSEE, tu vois, c'est pour. Ouais, par qui est financé l'INSEE? Non, on s'en branle un peu, faut dire, c'est l'INSEE, c'est. Fournisseur officiel du débat public en statistique. La Croix-Rouge est considérée comme une ONG? Ah bah la première même. Ils sont aux ordres, oui. Et le corps, qui finance le corps? C'est ça. Pas de remise en cause de l'INSEE. Par contre, les chiffres peuvent dire des choses différentes selon comment ils sont présentés. Ah bah évidemment. Non, non, mais bien sûr, mais ça c'est pas le rôle de l'INSEE que de te dire comment les lire, les chiffres. Ah oui, ils te filent les chiffres, tu t'en fais ce que tu veux. L'INSEE, c'est un peu. C'est un peu comme un thermomètre, tu vois. Thermomètre te donne la température. T'en fais ce que tu veux. Tu vois, alors là, ton débat sur la météo, est-ce qu'il fait plus beau, moins beau, est-ce que la température. Alors là, va débattre, le thermomètre ne te donne que la température. Pas la peine d'accuser le thermomètre d'être partial. Qui finance les thermomètres? C'est qui ce lobby du mercure là? Qu'est-ce qu'ils essayent de nous vendre? Je suis sûr que c'est le lobby des écharpes qui essaie de nous faire croire qu'il va faire froid pour qu'on achète des écharpes. Attention, hein. Moi je suis pas débile, hein. Je me laisserai pas avoir. C'est le lobby des Juvabiens. Le lobby des mamies tricoteuses. C'est qui ce Celsius? C'est qui ce Celsius là? Il est financé par qui Celsius? Hein? Et puis c'était quoi sa religion, si tu vois ce que je veux dire? Oh putain.
Oh, ta gueule!
Mais bon après, enfin bon, on a toujours ces débats. Vous savez que c'est des débats qu'on a toujours. Hein. C'est aussi à chaque fois que le Conseil d'État rend des avis qui ne sont pas défavorables sur des réformes d'un gouvernement que tu soutiens pas. Tu dis c'est qui ce Conseil d'État? Il est composé de qui? C'est que des bourgeois. On m'étonne pas. Merci Tanaël pour tes 150 euros. Les juges rouges, les magistrats, hein? Les magistrats. Ils sont trop de droite et trop de gauche en même temps. La même personne. Ça dépend juste de. Enfin, bon, ça dépend. Ouais, 150 balles, c'est très généreux. Merci beaucoup, hein. Excuse-moi, j'en fais pas des caisses, mais je devrais. Merci Tanaël, vraiment. Hein. 150 euros, c'est très très généreux. Merci pour ton soutien, Vaxit. Ce qui est très triste, c'est que c'est super difficile de leur faire entendre raison quand bien même nous venons vers eux. Ouais. Mais bon, c'est une question intéressante. C'est un sujet intéressant. Faut-il forcément. A-t-on un devoir de pédagogie? Qui finance ce Jean Massier? C'est vrai ça, ce Jean Massier? Quels sont ses intérêts? Qu'est-ce qui tire les ficelles derrière Jean Massier? Je suis sûr que c'est Marisol Touraine. Jean Massier est sur Twitch. Twitch, c'est Bezos, Amazon, je dis ça. Merci Lani pour ton resub, merci Medos pour ton resub, merci Darbonovitch, merci Weasley, merci Groin de culasse, merci Axlimit, merci Afifef, merci Trekos, merci Adramelch, merci pour vos resubs, merci beaucoup. Devoir de pédagogie, c'est pas le problème de changer la position du complotisme et de convaincre les tiers qui regardent le débat. Ah, je comprends, ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Ouais, je comprends. Merci Little Poulet pour ton Prime. Il y a un mec sur TikTok qui m'a mis un commentaire un peu complotiste sur les bords. Ça ressemblait à un truc du genre ouais, la CGT, Philippe Martinez, on se demande bien pour qui il roule à critiquer la France insoumise comme ça. J'étais en mode, ah ouais, quand même là. Ah non, c'est chaud. Oh les gars. La CGT, cheval de Troie du macronisme. Si tu veux. C'est pour ça que j'ai fait un tweet troll en disant, c'est qui cette CGT qui se permet de critiquer la France insoumise? Ils se prennent pour qui? C'est qui ces mecs là? Est-ce que c'est pas un peu des alliés objectifs de la bourgeoisie? Bon, le troll a marché, hein, évidemment. Depuis que le PCF est de droite. Oui, voilà, c'est ça. Hein, le Parti communiste, est-ce que finalement, ils n'ont pas passé un pacte secret avec la droite? Genre, faut arrêter l'humour sur Twitter, ça va te faire du mal. Je sais, c'est ce que je me dis à chaque fois. Plus, il y a Valérie Damido qui m'a follow hier. Je me suis dit, merde, putain, faut que je sois sérieux. Déjà que LFI a soutenu le macronisme depuis le début. C'est Marine Le Pen qui accuse la France insoumise d'être l'alliée objective du macronisme. Sachant que Marine Le Pen elle-même est accusée par la France insoumise d'être l'alliée objective du macronisme. Donc si ça se trouve, les macronistes ont piloté le RN de manière à ce qu'ils pilotent l'accusation de la France insoumise. Et en même temps, il y avait un deuxième cabinet noir qui pilotait la France insoumise pour qu'il pilote la réaction du RN. Voilà, et à la fin, voilà. Les macronistes qui sont eux-mêmes sous la coupe des wokistes. Qui pilotent tout ça. Depuis la face cachée de la C'est Onfray qui chapeaute tout. Le tout au service des Chinois. Comme par hasard. La Chine qui a inventé les États-Unis d'Amérique. Ouais, bon, bref, j'arrête. Tu vois, c'est bon, j'arrête. Ouais, tu rigoles, Jean, mais les complots, ça a bien existé dans l'histoire. Alors, un. Super drôle, Jean, tout ça pour ne pas parler de la perruque d'Emmanuel Macron. Non, mais oui, mais après, encore une fois, c'est normal. Moi, je me plains pas des commentaires sur les émissions Backseat. C'est normal, Backseat, c'est une proposition. C'est normal que les gens commentent, etc. Et à chaque fois, à chaque invité politique, il y a toujours des gens qui nous en veulent beaucoup parce qu'on n'a pas abordé tel sujet, qui, selon eux, est prioritaire surtout. Donc, typiquement, la perruque de Macron, etc. Et à chaque fois, c'est à peu près le même commentaire YouTube du genre on se demande pour qui vous roulez, vous faites exprès de ne pas aborder tel sujet? C'est parce que ça vous gêne? C'était quand on avait fait le before avec les boulangers et qu'à la fin du before, il y a un boulanger qui commence à dire qu'il est pour le nucléaire et tout. Et moi, je lui dis, ouais, non, mais ok, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Enfin, on n'a plus le temps là en plus, on va pas se lancer. Alors là, j'ai eu des commentaires en mode, ah bah bravo, Jean Massier. Ça censure les propos pro-nucléaires. Ça dérange les gauchistes quand on dit des propos pro-nucléaires. Putain. Je voulais parler du prix de la baguette de pain. Le texte étant au Sénat, possible que vous accueillez un sénateur à Baxi prochainement. Ah ben non, parce qu'on est financé et piloté en sous-main par l'Assemblée nationale, par Yaël Braun-Pivet elle-même, qui nous empêche d'inviter des sénateurs. Ah. Non, excuse-moi, c'est une blague. J'en sais rien. Voilà, pour te répondre, je ne sais pas, peut-être, peut-être pas, on verra. On prendra des décisions, on verra en fonction des disponibilités, tout ça, tout ça. Attends. Je re-regarde. Non, c'est bon. Je vérifie, on sait jamais. L'Assemblée nationale n'a toujours pas répondu à mon mail du 31 août. Ils sont sur le dossier. De toute façon, l'autre jour, j'ai croisé Jean Massier qui sortait d'une réunion avec Bill Gates, Bolloré, Elon Musk et Logan Paul. Est-ce que les politiques acceptent facilement de venir participer? Ça dépend lesquels. Et pour lesquels? Ceux qui ont water polo, c'est toujours très compliqué. En vrai, Manon Aubry, elle m'a dit heureusement que j'avais pas water polo ce soir, hein, parce que je serais pas venu, hein, je serais le water polo, je m'en fous. Fait plaisir de te voir, Manon. Sinon, pour la réforme des retraites, il y a une commission sénatoriale avant le débat dans l'hémicycle. Ouais, comme à l'Assemblée. Est-ce que vous vous tapez l'intégralité des lectures de textes de loi? Non. Est-ce que certains te contactent pour participer? Des politiques? Oui. Oui. Il y a des politiques qui me sollicitent plus ou moins subtilement. Pour me demander de les inviter. Mais ça marche pas comme ça. Il y a des gens qui me sollicitent plus ou moins subtilement pour me demander de devenir chroniqueur ou chroniqueuse. Et il y a des militants qui me sollicitent jamais subtilement pour me demander d'inviter leur gourou du moment. Il y avait un mec comme ça sur Twitter qui avait tweeté un truc du genre ouais, Baxit, ils ont toujours pas invité machin, c'est bien la preuve que c'est des gros fils de pute. Sauf que moi, je m'entends très bien avec le machin en question, du coup, je lui ai montré. Il m'a dit oh, putain, ils sont chiants. Je dis, ouais, on est d'accord. Il m'a dit ouais, non, ils m'aident pas toujours. Hein. Ils t'aident pas. Vendrais-tu l'émission et future production si l'offre est correcte? Qui voudrait acheter ça? C'est la rançon de la gloire quelque part. Alors ça, tu rigoles, mais oui. Ah oui. Vous connaissez la théorie du bad buzz is still buzz? Elle était théorisée mille fois, machin, etc. Qui a notamment été utilisée par Nicolas Sarkozy. La traduction en français, c'est peu importe que l'on dise du bien ou du mal de moi, l'important c'est qu'on parle de moi. Qui est une phrase qui a été prêtée à Sarkozy et surtout à son conseiller communication qui s'appelait... Je sais plus. Mais il y a aussi une autre théorie qui a plutôt été développée par des proches de Trump dans une dimension plus populiste, j'aime pas trop le mot, mais plus démagogue, qui est de dire mes adversaires se chargent de faire ma campagne pour moi. C'est une manière de dire en fait, c'est chercher la réaction outrée de ses opposants. De manière à ce que par l'outrance de leur réaction, ils renforcent l'adhésion à mes idées, à mes valeurs, etc. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais il y a une théorie en communication comme ça, la communication par l'adversité ou un truc comme ça. Goebbels? Non, Goebbels, il disait d'autres trucs, hein. C'était encore autre chose. C'était plutôt plus c'est gros, plus ça passe. Bref, chercher le buzz. Non, non, pas chercher le buzz. Non, 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 ça veut pas dire chercher le buzz. Ça veut dire se satisfaire du fait que des personnes réagissent de manière particulièrement virulente à ce que tu proposes, à ce que tu dis, etc. Jacques Séguéla, il avait des... Non. Séguéla, c'était le conseiller de Mitterrand. Et donc, tu vois, donc tu peux analyser ça. Par exemple, Sandrine Rousseau, qui est devenue la bête noire des masculinistes carnistes qui roulent en SUV, etc. Elle subit un cyberharcèlement donc, qui est grave, hein, c'est délictuel et c'est dangereux. Et c'est une application de la théorie du choc en tactique de communication, mais à ma connaissance, ça n'a pas de nom à proprement parler. Ok, d'accord. Sandrine Rousseau, elle est attaquée matin, midi et soir par une bonne partie des éditorialistes et de ces mecs-là sur Internet, sur Twitter. Et tu as deux manières de voir les choses. Soit tu dis que c'est des attaques en permanence, donc ça l'affaiblit. Mais tu as une autre manière de dire, c'est qu'en fait, ces gens-là sont tellement des caricatures que ça renforce la cote de sympathie pour Sandrine Rousseau de la part de toute la gauche. C'est le déplacement de la fenêtre d'Overton. Non, ça n'a rien à voir avec la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est sur les thématiques et les propositions. Là, c'est juste sur la posture. Donc le fait d'être critiqué vertement peut être vu comme un bienfait pour ta communication, ton image de marque, dès lors que les gens qui t'attaquent sont des caricatures. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a même y avait même des débats à une époque, je me souviens, sur les actions militantes qui venaient. C'était au moment notamment des militants qui s'en prenaient à des Apple Store, qui venaient défoncer des Apple Store, etc. Il y avait des théoriciens de la communication aux États-Unis qui disaient en fait ça rend vachement service à Apple. Parce que Apple, ils passent pour les gentils dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ils sont attaqués par des tarés qui viennent défoncer des ordinateurs devant les clients. Ils font peur à tout le monde, ils font peur aux clients, etc. machin. Enfin, c'est une bande de dégénérés encagoulés qui vient défoncer tes vitrines. En fait, Apple, ils gagnent beaucoup d'images positives. Le repoussoir. Bah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà. Donc je sais plus pourquoi on disait ça. On parlait de communication politique et avant ça. Non, c'est ça, on parlait de Brexit, les réactions, etc. Donc tout ça pour dire que je suis très content quand Brexit est critiqué négativement par des militants politiques acharnés. C'est plutôt une très très bonne nouvelle pour Brexit. Quid de la capote sur l'obélisque par Act Up? Je vois pas trop le rapport. La capote sur l'obélisque sur la place de la Concorde par Act Up, c'était un coup de génie en communication parce que ça brisait un tabou aussi. C'était la lutte contre le sida, le tabou du sexe, du phallus, de l'érection, etc., qui était et du préservatif et de la prévention contre le sida. Jean, ça te met pas mal à l'aise quand les commentaires sur Backseat sont à charge contre l'invité et qu'il les voit? Ça dépend des commentaires. Si c'est des critiques, non, je me mets pas du tout mal à l'aise, au contraire. Puis, encore une fois, les invités, ils sont habitués. Hein, c'est pas des perdreaux de l'année. Hein. Par contre, quand c'est du cyberharcèlement ou quand c'est des attaques sur le physique, etc., bon, en général, les gens sont bannis. Donc non. Merci Angélus, merci Lolo. Ça passera en Imotonnerie en ligne le jour où il y aura Xavier Bertrand. Non, il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. Hein. Pas besoin d'Imotonly. Faut pas croire que il peut arriver. Enfin, les rares fois où la modération se fait dépasser par les événements, ça peut arriver. C'est assez rare. Déjà, c'est assez rare. Hein. Franchement, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi, des fois, je discute avec des streamers, des copains streamers, streameuses et tout, qui connaissent pas très bien ma chaîne. Et ils me disent des trucs du genre. Oh putain, tu parles de politique, toi, ça doit être l'enfer, ton chat. Et en vrai, je leur dis, bah, franchement, vous vous faites une idée, hein? Non, non, non. Non, c'est plutôt tranquille, c'est plutôt chill, c'est plutôt marrant, c'est bonne ambiance. Ouais, il peut arriver que ça monte un peu dans les tours, que ça monte un peu en température, mais enfin, franchement, sur 20 heures de stream dans la semaine, s'il y a une heure un peu chaude, c'est le bout du monde. Donc, franchement, on va pas se plaindre non plus, hein. Donc, il faut pas, enfin, voilà, faut pas s'en faire toute une image. Et de toute façon, on a toujours le sub only, on a toujours le slow mode. Dans l'ensemble, c'est cool, les gens sont corrects ici. Mais oui, bien sûr, non mais évidemment, dans l'ensemble. Enfin, non mais. Déjà, je vous rappelle que l'écrasante majorité des gens qui regardent les streams ne commentent pas dans le chat. C'est comme ça, c'est valable sur tous les streams du monde. La majeure partie des gens qui regardent le stream ne sont pas dans le chat. Et dans la minorité qui est dans le chat, les gens qui foutent une sale ambiance ou qui mettent des commentaires qui ne respectent pas les règles, etc., sont minoritaires. Donc faut pas en faire une surreprésentation de quoi que ce soit. Et la raison pour laquelle la majorité des gens qui ne commentent pas dans le chat, c'est parce qu'ils en ressentent pas le besoin ni l'envie, donc c'est que ça leur convient, et c'est cool, ça roule. Quelle règle? Fais attention, toi. Fais attention, hein. Tu circules sur route ouverte. Hein. Où ils plient leur linge. Ah, si ça se trouve, ils sont en train de donner des coups de poing dans leur écran tellement ils trouvent ça intolérable ce qu'ils entendent, mais comme ils l'écrivent pas dans le chat, on le voit pas. Alors du coup, on en tire la conclusion erronée qu'ils aiment bien ce qu'ils entendent. Mais si ça se trouve, on se trompe. J'en suis à mon cinquième écran. Ouais, mais je vois plus le stream. Gros budget écran, les viewers. Ouais. À chaque fois que tu dis que le Mont-Saint-Michel est en Bretagne, un viewer casse son écran. Bah oui, mais enfin bon, j'ai envie de dire, je suis désolé si la vérité fait mal aux écrans, mais à un moment, faut regarder la science en face, hein. Quel est l'invité le plus mal accueilli par le chat? Il n'y en a pas particulièrement. Devine le genre qui suscite le plus de commentaires de type sarcastique, ironique, proche du harcèlement. Nous, le chat, est-ce qu'on arrive à te faire rire des fois? Ah non, mais tout le temps. Hein. Non, non, mais vraiment. Hein. C'est pas parce que je rigole pas physiquement, parce que j'essaie de faire semblant d'animer un stream. que vous ne me faites pas mourir de rire intérieurement. Il y a des commentaires qui vraiment me font marrer. Et sur Backseat, pareil. Hein. Sur Backseat, parfois, je me marre vraiment en lisant le chat. Mais comme le plan de caméra est sur l'invité, vous ne le voyez pas. Mais vraiment, je suis plié en deux, quoi. Le pire, c'est que c'est quasi instantané le sexisme. Ah oui, ah non, non, la misogynie, c'est autrement plus compliqué. Coucou, actuellement, les gros débats à l'Assemblée portent sur quoi? C'est assez tranquille depuis une semaine, je t'avoue. Tu devrais avoir un mec en régie qui highlight les bonnes vannes. Attends, qu'est-ce que j'ai vu pendant l'interview de Jérôme Guéët? J'ai vu un truc qui m'a fait mourir de rire. Je sais plus ce que c'était. C'est quoi le ratio homme-femme de tes viewers? C'est 85% d'hommes, 25% de femmes. Non. 85-15. 85% de... C'est entre 80 et 85% d'hommes. Et entre 15 et 20% de femmes. Donc c'est clairement le festival de la saucisse. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes? Bah, y a plusieurs éléments qui peuvent l'expliquer. Déjà, il y a, d'une manière générale, une disproportion d'hommes par rapport aux femmes sur Twitch. C'est en partie lié à l'image véhiculée par le jeu vidéo dans la société. Il y a moins de créatrices de contenu aussi sur Twitch. Enfin, je veux dire, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. C'est qu'est-ce qui est l'œuf, la poule, tout ça. Mais donc il y a ça. Donc il y a le fait que déjà on est sur une plateforme sur laquelle il y a une surreprésentation d'hommes. Tu ajoutes à ça le fait que je suis moi-même un homme, ce qui fait que ça peut spontanément attirer plus facilement des hommes et rebuter plus facilement des femmes. Ça aussi, c'est un phénomène qui a été étudié. Et troisièmement, il y a le fait qu'on aborde des sujets de politique. Or, les petites filles, on leur apprend très jeune que le pouvoir, l'influence, etc., c'est des enjeux masculins. Et que les petites filles, ce sont des princesses enfermées dans le donjon du château. Donc, on le sait, et c'est ce qui explique. C'est ce qu'explique aussi Léa Chamboncel dans son bouquin sur plus de femmes en politique. La politique a été tellement faite et pensée autour de la figure de la masculinité que c'est moins évident pour une femme spontanément de se dire tiens, ça va me concerner. Et voilà. Longue voie là. Je sais que s'il y a une commune majoritairement homme, j'ai tendance à moins participer et m'abonner sur une chaîne. Oui, c'est normal. Oui, parce qu'en plus, le phénomène s'auto-entretient. C'est-à-dire que les femmes qui regardent mes streams, quand elles voient les commentaires sur le chat dès que Marlène Schiappa ouvre la bouche, bah, je comprends qu'elles soient pas méga motivées à venir encore plus nombreuses dans mes streams. Enfin, tu vois, c'est le phénomène s'auto-entretient. Évidemment! Je crois que ça évolue pas le 85-15. Non, ça évolue pas. On a déjà fait plein de fois des sondages, des enquêtes et tout. Ça évolue pas trop. Les femmes sont-elles moins intéressées par la politique que les hommes? Ça dépend ce que tu appelles la politique. Non, les femmes ne sont pas spontanément, naturellement, biologiquement, de manière innée, moins intéressées. En revanche, l'organisation et la représentation du phénomène politique mettent davantage en avant des figures masculines que féminines. Donc, mathématiquement, mécaniquement, les femmes se sentent moins attirées. Et on le constate, ça dépend des milieux, mais dans les effectifs militants, dans les candidatures aux élections, dans les élections elles-mêmes. Voilà. Dans les prises de parole et tout, et tout, et tout. Puis tu ajoutes à ça, évidemment, d'autres phénomènes. Les femmes sont plus facilement contestées, les femmes doivent davantage faire leurs preuves, les femmes en chient davantage pour monter en politique que les hommes. Voilà. On passe sur le simulage. Ah bah si vous voulez faire du flight simulator, on peut y aller, hein. Il faut quand même noter un progrès bien qu'insuffisant avec 38% de femmes à l'Assemblée en ce moment. Ah non, mais je dis pas que la situation est de pire en pire. Il y a des améliorations, ça avance, ça prend du temps, c'est des mutations profondes, ça se fera pas en un claquement de doigts, mais ça progresse. La parité progresse au Sénat, à l'Assemblée, petit à petit, élection après élection, ça avance. Il y a des phénomènes de plus en plus de verbalisation des problématiques liées au genre. Ça aussi, c'est. On peut le voir de deux manières. On peut dire c'est terrible, c'est la preuve que vraiment on est en décalage complet et que ça va pas du tout. On peut aussi se dire bah, c'est une bonne nouvelle, c'est la preuve que maintenant on en parle, donc c'est une problématique qui est prise en compte de plus en plus, qui est considérée comme de plus en plus insupportable. Donc le phénomène MeToo politique, les phénomènes de dénonciation des violences sexuelles et sexistes dans la politique sont aussi. On peut aussi le voir le verre à moitié plein en disant bon bah c'est la preuve que maintenant on laisse plus passer ce qu'avant on laissait passer, donc ça avance petit à petit. Faut pas plus de femmes en politique, mais moins d'hommes. Selon toi, quelle femme de gauche est la plus à même de se présenter en 2027? Je sais pas, on verra ça au jugement majoritaire. C'est pas moi, c'est Manon Aubry qui l'a dit. Qu'il fallait du jugement majoritaire. On va voir le. Ça va être marrant. Le retour du jugement majoritaire à gauche. Quand il y aura la primaire de la NUPES. J'ai pas compris la vanne du jugement majoritaire, ça m'a l'air bien. Alors, c'est pas la question de savoir si c'est bien ou mal, c'est que le jugement majoritaire, c'est la méthode qui a été utilisée par la primaire populaire en 2022. Primaire populaire qui a suscité un certain nombre de critiques. Par des gens qui. Peut-être, peut-être, rétrospectivement, dans quelques années, se diront que les critiques étaient peut-être un peu fortes. Le débat a été extrêmement bienveillant, on le rappelle. C'est vrai. Quels sont les sujets qui pourraient popper sur les prochaines élections? Climat, chômage, énergie, dépendance. Mais j'en sais rien. Ah non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ça dépend de l'actu. Ils s'étaient quand même tiré une énorme balle dans le pied avec leur second tour. Ah non, 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 mais attends. la critique n'était pas. Je dis pas que la critique était infondée, hein. Attention. Je dis pas du tout que la critique était infondée, hein. Les gens de la primaire populaire ont été leurs pires ambassadeurs, la question du mode de scrutin était secondaire. T'as remarqué comme les militants sont souvent les pires ambassadeurs de leur cause? Marrant, hein? Ces mots, le nombre de politiques a pas mal baissé depuis 20 ans. Le nombre de politiques? C'est-à-dire, tu comptes quoi? C'est drôle, parfois on te pose des questions comme si t'avais voyagé en 2027. Ouais. Non, non, mais je peux comprendre. Non, mais attends, mais c'est normal, hein. Je comprends tout à fait qu'on se pose des questions sur 2027. Notre système politique tourne tellement autour de la présidentielle qu'on se pose des questions sur la présidentielle, c'est normal. Je comprends que spontanément, on pose davantage de questions sur la présidentielle que sur les sénatoriales. Bon, j'en veux à personne d'ailleurs. Je le comprends, c'est normal, c'est habituel, voilà. Par contre, je sais jamais quoi dire quand on me dit est-ce que tu penses que machin va se présenter? Mais je sais pas. Dis-nous ce qu'on doit voter. « 2012 a pas été une présidentielle folle, du coup on se rabat sur 2027. » Oui, en plus c'est vrai, non, en plus c'est vrai, t'as raison. Il y a un goût d'inachevé sur la présidentielle 2027, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Voilà. Qui va gagner en 2032? Je préfère anticiper. Jean-Luc Mélenchon. A-t-il des chances d'être réélu à la fin de son premier quinquennat? Finalement, le vrai jugement, c'est l'élection ou la réélection? À méditer. Ça fait réfléchir, hein. Jean-Luc Mélenchon a-t-il plus de chances d'être réélu à la fin de son premier quinquennat? S'il a gouverné pendant 5 ans? Ou s'il a été en cohabitation? Techniquement. À part Emmanuel Macron, aucun président n'a été réélu hors cohabitation. Emmanuel Macron a-t-il été réélu parce que les Français, les électeurs, étaient satisfaits de son premier mandat? Ou en tout cas pas suffisamment insatisfaits pour voter autre chose? Ou alors rebutés par les alternatives? Hein, c'est des questions qu'elles sont bonnes. Le mandat n'est pas fini après, on n'est pas à l'abri d'une cohabitation d'ici 2027. Jean-Luc Mélenchon a-t-il plus de chances d'être élu président de la République en 2027 s'il est Premier ministre d'ici là? Pensez-vous que l'exercice du pouvoir, l'application de l'Union populaire, pendant quelques années, serait un facteur d'amélioration du vote pro Jean-Luc Mélenchon, ou au contraire, de contestation? Aucun Premier ministre n'a réussi à être élu. Si Jacques Chirac, mais plus tard. Jean-Luc étant parfait, la question ne se pose pas. Mais cette perfection, que je ne remets pas en cause puisqu'elle est scientifique, cette perfection est-elle comprise et perçue par l'opinion? Parce qu'au final, c'est elle qui vote, cette conne. Faudra de la pédagogie et puis c'est bon. Oui, c'est ça. Il faudra que le gouvernement fasse preuve de pédagogie pour expliquer ses réformes. Beaucoup de pédagogie. Est-ce que Jean-Luc est toujours aussi bien placé pour devenir Premier ministre qu'en juin dernier? Alors ça, c'est une deuxième bonne question. Non, mais t'as raison, parce que là, on rigole, etc., en mode Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre et tout. En vrai, si demain, il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que vous croyez vraiment que la NUPES reproposera Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre? LFI. En tout cas, la direction de LFI le proposera certainement. Est-ce que les écolos, les communistes et les socialistes vont y aller avec le sourire? Perso, je trouvais que c'était une erreur d'utiliser Mélenchon Premier ministre pendant la dernière campagne des législatives. On n'élit pas un Premier ministre. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'était plutôt une bonne idée de la part de Jean-Luc Mélenchon, ça. Je pense qu'il a été très smart de dire élisez-moi Premier ministre. Parce que quand tu dis on n'élit pas un Premier ministre, en fait, si un peu. Les législatives, ça, notamment dans le cadre d'une alternance, ça, justement, ça permet d'élire un Premier ministre. Indirectement, certes, mais quand même. Donc ça, non, 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 je pense que Jean-Luc Mélenchon a eu raison d'utiliser cet argument-là, qui a permis de restructurer les troupes après la défaite de la présidentielle et de la projeter dans la campagne des législatives. Non, c'était plutôt smart, je pense. Je sais pas, c'est mon point de vue. On peut en discuter. On n'élit pas un PM au même titre qu'on n'élit pas un maire, autrement dit, c'est smart. Oui, voilà, c'est ça. Et surtout en créant la NUPES, remettre les élections législatives au centre de l'intérêt. Ah, mais rappelez-vous ce qu'on disait sur cette très bonne chaîne, abonnez-vous, au moment des législatives. La NUPES a-t-elle été créée par la France insoumise? Non. La NUPES a-t-elle été créée par les écolos, les socialistes et les communistes? Non plus. On peut pas dire qu'il y a eu une création d'un camp plutôt que d'un autre, que l'un des deux camps a fait l'œuvre d'une largesse, d'une politesse, etc. Pas du tout. Si la NUPES a été créée, c'est parce que tout le monde y avait intérêt. Y compris d'un point de vue cyniquement clanique. Elle a été impulsée par LFI un peu malgré tout. Bah oui, mais un peu contraint et forcé. C'est-à-dire que la France insoumise a tiré les leçons de 2017 en disant en 2022, on ne refait pas la même erreur qu'en 2017. Donc, ça arrangeait tout le monde, hein, la NUPES. Pour garder des sièges ou pour en gagner, exactement. En 2017, Jean-Luc Mélenchon fait 20% au premier tour de l'élection présidentielle. Et comme il n'y a pas d'union et il n'y a pas d'accord électoral au second tour avec les autres à gauche, bah ils se gênent les uns les autres dans les circonscriptions. Ils se retrouvent comme des cons avec 17 députés à l'Assemblée. Putain, ils avaient l'air cons, les insoumis. 20% des votes, 17 députés. Super. La douche froide. Du coup, les insoumis, ils l'avaient mauvaise. Ils auraient pu avoir plein d'autres circonscriptions, mais ils les ont pas eu parce qu'ils sont gênés mutuellement avec les autres candidats à gauche. Donc arrivé en 2022, Jean-Luc Mélenchon refait plus de 20%. Et cette fois-ci, l'état-major de LFI, il dit, bon, on va pas refaire la connerie de 2017, cette fois-ci, on va se mettre d'accord, on va bosser intelligemment avec nos partenaires à gauche pour essayer de ne pas se gêner les uns les autres. Les autres partenaires à gauche, ils sont sortis exsangues de la présidentielle. Socialistes ont fait 1%, les écolos sont effondrés, enfin tout le monde s'est effondré. Du coup, ils ont tous intérêt à se mettre d'accord avec LFI pour dire, alors déjà qu'on s'est pris une cuite à la présidentielle, si on se retrouve comme des cons à se gêner les uns les autres, il n'y aura plus aucun élu nulle part. C'est vraiment le meilleur moyen de disparaître tous. Donc soit on arrête d'être débiles et on se sauve mutuellement les uns les autres et on arrive à l'Assemblée avec un truc qui ressemble pas à rien en termes de nombre de députés. Peut-être pourquoi pas une forme de majorité, on verra. Soit on est débile, et à ce moment-là, bon bah la gauche disparaît de l'Assemblée. Voilà. Donc la NUPES a été créée. Encore une fois, ce n'est pas une fleur qu'ont fait les socialistes, les écologistes et les communistes à la France insoumise. Ce n'est pas non plus une fleur qu'a fait Jean-Luc Mélenchon de toute sa bienveillance, de toute son à ses partenaires à gauche en les sauvant. Non, non, non. Non, non, ils avaient besoin les uns les autres de pas se gêner, de plutôt y aller ensemble plutôt que. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai aussi du mal avec le camp Cazeneuve, Carole Delga, les Hollandais du PS qui disent ouais le PS s'est rallié comme un toutou à l'extrême gauche et tout. Et chaque fois je dis mais attendez vous êtes marrants avec le score d'Hidalgo vous auriez fait quoi vous? Vous vouliez y aller tout seul Vous voulez mettre un candidat PS dans toutes les circonscriptions du pays? Pensez vraiment que vous auriez maintenu un groupe à l'Assemblée avec ça? Je veux bien, hein, enfin vous pouvez accuser Olivier Faure de tous les pires maux de la terre, mais enfin bon. Vraiment, non, je suis pas sûr que c'était dans l'intérêt mais vraiment cynique du Parti Socialiste que de pas signer la NUPES, hein. Donc quand tout le monde est dos au mur, t'as plutôt intérêt à dire bon. On arrête d'être débiles, on bosse ensemble? Ouais, on fait ça, ouais. Est-ce qu'ils ont assez de militants pour mettre une personne dans chaque circo? Ah bah clairement, oui. Peux-tu nous expliquer pourquoi, malgré le référendum du 29 mai 2005, n'a pas été suivi par le vote des députés traité de Lisbonne? Parce que le référendum du 29 mai 2005 n'est pas le dernier moment où les Français ont voté. Il y a eu d'autres votes après, avec d'autres initiatives politiques, avec d'autres momentum. Notamment 2007. Pourquoi le référendum n'est plus jamais utilisé? Justement parce que 2005 a laissé un mauvais souvenir. Est-ce que c'est normal que les Français n'aient pas leur mot à dire concernant la guerre en Ukraine? Tu noteras que Vladimir Poutine n'a pas demandé l'avis de grand monde avant de déclencher la guerre en Ukraine. Il n'a pas vraiment demandé aux Ukrainiens ce qu'ils en pensaient. Il n'a pas demandé aux Russes non plus. Les Français, de leur côté, je pense qu'ils s'en carrent l'oignon assez sérieusement, tu vois, de leur opinion, Vladimir Poutine. Mais non, mais enfin, je comprends pas ta question. Pourquoi le peuple. Enfin, ça veut dire quoi consulter les gens sur la guerre? Tu étais quoi pour ou contre la guerre? Enfin. La guerre, c'est un état de fait qui est déclenché. Qui a été déclenché et la réaction des États se fait par les gouvernements, tu vois. Surtout dans des situations d'urgence. Genre faire voter l'Assemblée sur l'envoi d'armes. Bah ça va être le cas dans le cas de la loi de programmation militaire, de fait. Consulter les Français sur l'intervention de la France. Bah la politique de défense fait l'objet d'une discussion au Parlement dès lors qu'il y a l'engagement des troupes, ce qui n'est pas le cas en Ukraine. Et pour ce qui est de l'investissement militaire, dans le cadre de la loi de programmation militaire qui va arriver dans quelques semaines là. Et oui, non, effectivement, la France n'intervient pas en Ukraine. C'est pas comparable avec le Mali. Le président peut prendre des décisions urgentes dans un délai court, ensuite l'Assemblée nationale vote la poursuite ou non des actions militaires. Ça, c'est pour l'engagement des troupes, par exemple au Mali. Au Mali, pareil, hein. Les terroristes, ils n'ont pas vraiment demandé l'opinion de qui que ce soit avant de menacer Bamako, tu vois. Bon, bah. L'engagement des troupes a été décidé et dans la foulée, il y a eu audition des ministres, etc. En vrai, pour l'Ukraine, c'est une bonne chose, mais dans quelle mesure le Parlement pourrait contrôler l'envoi d'armes ou non par une motion de censure ou c'est du pouvoir du président? Bah, le Parlement pourrait refuser de voter la loi de programmation militaire, pourrait refuser de voter les budgets de défense, le gouvernement pourrait voter la censure du gouvernement, le Parlement pourrait voter la censure du gouvernement. Et au Mali, il n'y a plus de force française ni au Burkina d'ailleurs. Oui, tiens d'ailleurs, en plus. Penses-tu qu'il y aura une dissolution à l'Assemblée? J'en sais rien, je sais pas. La censure du gouvernement n'est pas qu'après le 49-3? Non. Non, non. Flight Sim, ouais, on va lancer Flight Simulator, ouais. Est-ce que tu considérais l'environnement du travail de tes années politiques comme sain? Pas du tout. La politique, c'est pas un environnement de travail sain. C'est tout ce que tu veux, mais c'est pas sain. S'il n'y avait pas eu d'obstruction, tu penses que l'article 7 de la réforme des retraites aurait été voté? Je sais pas. C'est vrai que sur les sujets extérieurs, il y a peu de consultations du peuple et les positions de l'exécutif ne sont pas toujours très claires au grand public. Mais il n'y a jamais de consultation du peuple. Jamais. Vous pouvez me citer une seule guerre qui a été faite par référendum? 1870, 1914, 1939. Mai 68. La révolution, guerre civile. Mais non, mais c'est, enfin, tu vois, c'est pareil. La révolution. Les révolutionnaires, ils ont demandé le peuple, au peuple s'ils voulaient faire la révolution? Non, ils l'ont faite. Tu vois? Bon, techniquement, ils avaient un mandat du peuple quand même, hein, parce que les mecs, les cahiers de doléances, tout ça, c'était assez précis, c'était assez clair. Les bonnets rouges. Les gilets jaunes, ils ont fait un référendum? Pour vous demander ce qu'on en pensait, nous, de leur manif tous les samedis. C'était le peuple. Ouais. Je vous avais raconté le paradoxe des procès de Moscou pour justifier la peine de mort d'un dissident politique. C'est facile. Tu dis, mais tu as critiqué le parti? Tu as critiqué l'État? Tu as critiqué une décision du gouvernement, mais le gouvernement est entre les mains du parti. Le parti, c'est le parti de la classe ouvrière. C'est le parti de la révolution. Ça veut dire que tu critiques la révolution? Tu es donc un contre-révolutionnaire. À peine de mort. Hein. Alors on rigole, mais c'est précisément ce que les mecs s'entendaient dire avant d'être fusillés, hein, ce que je viens de dire là. Ça vous paraît bizarre? C'est exactement ce que les mecs subissaient. Voilà, peine de mort. Enlèvement par le KGB, peine de mort. On leur disait littéralement ça. Tu ne peux pas aller contre la volonté du Politburo, puisque la volonté du Politburo exprime la volonté du peuple. Donc, si tu vas contre la volonté du peuple, ça veut dire que tu commets un crime de haute trahison de la volonté du peuple. Il n'y a pas pire en démocratie que. Il n'y a pas plus antidémocratique qu'aller contre la volonté du peuple. Exécution. Bah désolé gros, mais fallait réfléchir avant. Bah oui, embrasse ma femme. Bah écoute, on verra. Peut-être qu'elle aussi, elle va y passer. Hein. Elle est amoureuse de toi, ta femme? Ah non, elle alourdit son cas, là. Ah bah non. Bah. Elle a des sympathies contre-révolutionnaires. On va être obligé de la buter, elle aussi. Alors attendez. On va se lancer sur Flight Simulator. Hop. Bougez pas. Hein. On est dessus. Hein. Ouais. Toutoulou. Hop. C'est pas exactement ce qu'a dit Macron au salon de l'agriculture et une militante écolo. Ah, sur le vous avez été élu par qui? Ah oui, ça c'était bien de la merde ça aussi. Tu vas peindre quoi alors à 40K? Moi je vais rien peindre. Je vais acheter